Vous écoutez bien Radio France Internationale, 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
Anne Contner.
RFI Midi sur le continent américain durant la prochaine demi-heure et nous reviendrons sur ce massacre à Cité Soleil dans la capitale haïtienne. 184 morts selon les Nations Unies et des questions encore sur les circonstances de ces meurtres. On y revient dans quelques minutes. On parlera aussi de l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, accord de libre-échange finalisé il y a quelques jours mais pas encore ratifié par les 27. Plusieurs pays le critiquent en Europe et craignent qu'il nuise aux agriculteurs. Avec notre invité tout à l'heure, nous parlerons des conséquences pour les autres signataires, les pays sud-américains du Mercosur. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de cette journée d'accueil pour les étudiants étrangers en Martinique.
Oui, ils ont été accueillis. On leur a souhaité la bienvenue sur le campus universitaire de Schœlcher. Ils viennent d'Allemagne, du Bénin ou encore du Togo.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec à la une aujourd'hui encore la Syrie, 3 jours après la chute du régime de Bachar el-Assad.
Oui, avec une conséquence presque immédiate sur ce changement de régime. De nombreux pays européens ont déjà décidé de suspendre l'accueil de réfugiés syriens. En effet, selon eux, la situation politique et sécuritaire ne justifie plus de leur accorder l'asile. Daniel Valo, bonjour.
Bonjour.
Depuis hier, Daniel, les annonces se sont succédées dans les capitales européennes.
Oui, et c'est désormais une dizaine de pays qui a pris la décision de geler les procédures de demande d'asile. Il y a la Suisse, le Royaume-Uni et la Norvège et de très nombreux pays. Au sein de l'Union européenne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche et Allemagne. L'Allemagne, dont la décision pèse très lourd car c'est le pays qui, depuis 2015, suite à la décision, on s'en souvient d'Angela Merkel, a accueilli le plus de réfugiés syriens en Europe, plus d'un million en moins de 10 ans. La décision en Allemagne va concerner quelques 47 000 personnes dont les demandes d'asile sont en cours de traitement. D'autres pays pourraient emboîter le pas, c'est le cas notamment de la France. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir qu'il travaillait sur une éventuelle suspension des dossiers en cours et qu'une décision devait être rapidement prise. Alors attention, pour l'heure, il ne s'agit pas de rapatrier ou d'expulser les Syriens qui vivent aujourd'hui en Europe, simplement de suspendre les procédures qui n'ont pas été traitées. Cela dit, un pays, l'Autriche, a déjà fait savoir qu'il préparait un programme de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie. Et dans plusieurs pays européens, eh bien, des partis de droite et d'extrême droite réclament déjà des mesures de rapatriement, qu'ils soient volontaires ou non.
Merci Daniel Valo pour ces précisions. On vient de l'apprendre, les rebelles syriens nomment un chef de gouvernement transitoire à Damas, Mohamed al-Bashir. Cet homme était jusqu'à maintenant président du gouvernement de salut syrien, l'exécutif proclamé à Idlib par le groupe islamiste. L'armée israélienne a démenti les informations faisant état de son avancée vers Damas. D'après Reuters, ce qui cite des sources locales, les troupes israéliennes qui mènent une incursion dans le sud de la Syrie se trouvent à seulement une vingtaine de kilomètres de la capitale. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël s'est emparé d'une partie de la zone tampon du Golan et a lancé de nombreuses frappes en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a dénombré 300 frappes ces derniers jours. À Genève, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie demande l'arrêt des incursions et des frappes d'Israël. Et pendant que l'armée israélienne attaque tous azimuts dans la région, Benyamin Netanyahou, lui, comparaît en justice. C'est la suite de son procès pour corruption. Il est jugé à Tel Aviv pour corruption, fraude et abus de confiance.
Aux États-Unis, toutes les nominations de Donald Trump ne passent pas très facilement.
Oui, on peut même parler d'un caillou dans la chaussure du milliardaire et de sa future administration. Dans une lettre ouverte, 77 prix Nobel appellent les sénateurs américains à ne pas valider la nomination de Robert Kennedy Jr. comme secrétaire à la santé. Lila Olkinora, bonjour.
Bonjour.
Robert Kennedy Jr. est critiqué pour son manque d'expérience. Cet ancien avocat en droit de l'environnement est loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique.
Des Nobel de médecine, de physique, de chimie et d'économie, c'est la première fois que des lauréats du célèbre prix prennent ainsi position contre une nomination gouvernementale et pas des moindres. L'ancien candidat à la Maison-Blanche qui s'était retiré pour soutenir Donald Trump est, selon les signataires, un critique agressif des institutions du département de la santé, surtout de l'Agence de régulation des médicaments, qu'il promet de purger de tous ceux qu'il appelle les fonctionnaires corrompus. Si la nomination de Robert Kennedy Jr. était validée par le Sénat, celui-ci prendrait la tête d'un département à 2 milliards de dollars de budget annuel, un risque pour la santé publique des Américains selon les chercheurs, lui qui s'illustre depuis longtemps par ses positions pour le moins controversées. Sans formation scientifique, il a propagé des théories du complot sur le Covid-19 ou le VIH. En 2013, l'ancien candidat à la présidentielle appelait à emprisonner les scientifiques travaillant sur les vaccins et à jeter la clé. Les rédacteurs de cette lettre ouverte dénoncent aussi son opposition à l'ajout du fluor dans l'eau courante. Crainte ultime pour les signataires, la remise en cause du leadership américain dans le domaine de la santé.
Lila Olkinouara du service international. Merci à vous, Lila. Au Tchad, les avions de chasse sont en train de partir. Les avions français, le détachement d'avions basé au Tchad depuis des décennies, a décollé ce matin de N'Djamena. De sources françaises, je cite, la présence de ce détachement ne se justifie plus après la rupture de l'accord de défense dénoncé le 28 novembre par les autorités tchadiennes.
Une décision de justice très attendue en Argentine.
Oui, c'est aujourd'hui qu'on doit connaître le dénouement dans l'affaire très médiatisée des rugbymen français accusés de viol en Argentine. La justice de la province de Mendoza doit se prononcer sur la demande de non-lieu déposée par les avocats d'Hugo Oradou et d'Oscar Jégou. Demande qui a été appuyée par le parquet, Théo Conscience.
5 mois après leur mise en examen pour viol aggravé, Oscar Jégou et Hugo Oradou sauront aujourd'hui si la justice argentine abandonne les poursuites à leur encontre ou non. La décision de la juge doit être rendue lors d'une audience à huis clos débutée à midi temps universel. Accusés de viol par une femme argentine de 39 ans dans la nuit du 6 au 7 juillet, les joueurs du 15 de France, qui reconnaissent avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante mais assurent qu'elles étaient consenties, avaient dans un premier temps été arrêtés et incarcérés. Ils avaient été libérés mi-août, puis autorisés à rentrer en France début septembre, après que le parquet argentin a relevé des contradictions notoires et des incohérences dans le récit de la plaignante. Les avocats de cette dernière avaient dénoncé une justice partiale et rejeter la demande de non-lieu soutenue par le parquet. Quelle que soit la décision de la juge aujourd'hui, la défense de la plaignante et celle des rugbymen auront la possibilité de faire appel. En attendant, et alors qu'ils sont toujours mis en examen pour viol, Oscar Jégou et Hugo Oradou ont déjà retrouvé les terrains de top 14. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
En France, toujours pas de Premier ministre. Emmanuel Macron poursuit ses consultations. Une réunion a lieu cet après-midi à l'Élysée en présence des représentants des partis politiques, sauf ceux de la France insoumise et du Rassemblement national. Parmi les personnalités reçues à l'Élysée, le socialiste Olivier Faure. Il demande un Premier ministre de gauche et que Macron se mette en retrait.
Une percée très importante dans le domaine de l'informatique quantique.
Oui, on la doit au géant américain Google. Une percée qui va permettre de pulvériser tous les records de calcul. Google a dévoilé un nouveau processeur baptisé Willow, une puce surpuissante qui présente des performances inédites et qui serait capable de réduire les erreurs de façon exponentielle. Explication d'Anne Verdaguer.
Imaginez un ordinateur qui peut explorer simultanément un nombre exponentiel de possibilités avec des capacités de calcul inouïes. C'est désormais envisageable grâce au processeur dévoilé par Google qui vient de franchir une étape importante dans la recherche quantique. La puce a en effet réalisé en moins de 5 minutes un calcul qui prendrait à l'un des plus puissants ordinateurs du marché plusieurs millions d'années. Mais surtout, cette puce peut corriger des erreurs grâce à un système qui s'avère enfin efficace. Car si les ordinateurs quantiques promettent d'ouvrir des capacités incroyables de calcul, leur marge d'erreur reste encore très élevée. Avec Willow, ce taux tombe à environ 1 pour 1000, un système de correction qui est testé depuis des décennies par plusieurs équipes dans le monde entier, auprès de tous les géants de l'informatique, que ce soit IBM, Microsoft, Amazon ou encore Intel. Ils travaillent d'arrache-pied pour tenter de réaliser le premier ordinateur quantique réellement opérationnel, ce qui prendra encore plusieurs années et surtout plusieurs milliards de dollars d'investissement. En plus.
Anne Verdaguer, un dernier mot de football en Ligue des Champions. Faux pas interdit pour le Paris Saint-Germain en déplacement ce soir en Autriche, au bord de l'élimination. Le PSG affronte Salzbourg aux confins occidentaux de l'Autriche, là où Mozart vit le jour. Voilà. Très bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie d'Anne Contenaire.
Merci Gilles Moreau. RFI Midi, dernière partie avec Haïti à la une et ce massacre qui choque le pays entier et au-delà. La mort de 184 personnes selon les Nations Unies.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on y revient avec vous, Vincent Souriot, sur cette terreur qui règne à Wharf Jérémy, ce secteur de Cité-Soleil en périphérie de Port-au-Prince, depuis ce drame autour duquel planent encore des incertitudes.
Effectivement, les chiffres d'abord, combien de victimes, bilan toujours invérifiable. L'ONU parle d'au moins 184 morts, vous le disiez, à Cité-Soleil pendant le week-end qui vient de s'écouler. Les Nations Unies que nous avons interrogées ont des équipes en Haïti, mais elles ne veulent pas communiquer sur la manière dont ces informations ont été recueillies, trop dangereux pour leurs sources. Mais dès hier, le secrétaire général de l'ONU, par le biais de son porte-parole Stéphane Dujarric, a fait part de son indignation.
Le secrétaire général condamne fermement la violence des gangs et la perte des vies humaines qu'on a vues en Haïti. Il y a eu un événement horrifique. Nous exprimons notre profonde sympathie, nos condoléances aux familles des victimes de cet acte horrible. Pour nous, c'est aussi l'occasion de rappeler le besoin pressant des États membres pour qu'ils fournissent une aide à la mission multinationale qui est en ce moment en Haïti. Cette mission a besoin de moyens financiers et de moyens en équipement.
Renforcer donc la sécurité, en particulier dans la zone de Cité-Soleil. À ce stade, Anne, c'est un vœu pieux. C'est une zone de non-droit à Cité-Soleil où la police haïtienne ne se risque plus. Depuis des années, le secteur portuaire est sous le contrôle de Mykhanor Altès, le chef de gang à l'origine de ce massacre, aussi connu sous le nom de Monel Félix, qui a donné l'ordre de boucler le quartier. D'après plusieurs ONG qui disposent de relais sur place, plus personne à Wharf Jérémy ne peut sortir de son domicile. Et les rares témoignages qui émergent sont des témoignages indirects, souvent les enfants de ces personnes âgées qui ont été exécutés de sang-froid.
Et est-ce qu'on en sait plus sur les raisons, sur les modalités de ce crime de masse ?
La version la plus crédible, relayée par plusieurs organisations haïtiennes de défense des droits de l'homme et les sources communautaires que nous avons pu joindre, c'est l'hypothèse de la vengeance. Le fils de Mykhanor Altès est tombé malade et dans l'incapacité de le soigner, il s'est convaincu, après avoir consulté un prêtre vaudou, que les personnes âgées de Cité-Soleil lui avaient jeté un sort. C'est là que tout a commencé. Rafle, exécution sommaire, cadavre incendié. L'immense majorité des victimes sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Tous les cheveux blancs sont décimés, c'est ce que nous a confié l'une de nos sources.
Et le nouvelliste a pu entrer en contact avec les proches de l'une de ces victimes.
Oui, le récit est glaçant. Trois hommes venus chercher ce monsieur de 76 ans vers 10h du soir, poignardé, son cadavre brûlé. Son fils affirme connaître au moins une trentaine d'autres personnes âgées victimes de ce massacre. Et personne n'est sûr à ce stade que cette folie criminelle soit terminée. Mykhanor Altès et ses hommes pourraient encore détenir, selon certaines sources, plusieurs dizaines de personnes prisonnières dont la vie est en danger imminent.
Vincent Souriot, vous nous parliez de la réaction des Nations Unies. Les autorités de transition, elles aussi, se sont exprimées. Et nous allons en parler avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Le gouvernement de transition a promis une réponse après ce massacre.
Le gouvernement déclare condamner avec une indignation absolue l'atrocité inhumaine perpétrée à Wharf Jérémy, qui a coûté la vie, comme vous le savez, à environ 180 personnes sans défense et orchestrées par le chef de gang Mykhanor Altès. Une ligne rouge a été franchie. La justice frappera avec une rigueur exemplaire, promet le gouvernement, qui en profite pour présenter sa sympathie aux familles de victimes. Ce ne sont pas moins de 5000 personnes qui ont été tuées et blessées en Haïti durant cette année qui tire à sa fin, selon des données de l'ONU.
Donc voilà pour la promesse du gouvernement haïtien, mais Alter Press publie l'analyse d'un militant qui parle, lui, d'une indifférence irresponsable de la part des autorités et notamment du Conseil présidentiel de transition.
Et nous lisons, alors que des quartiers sont ravagés, systématiquement incendiés, que des zones stratégiques sont menacées et que les gangs préparent l'assaut sur Pétionville ou exécutent de manière inouïe 184 personnes assistées à Cité-Soleil, eh bien le CPT festoie, ignorant la gravité de la situation, c'est ce que critique Michel Legros. Faudrait-il souhaiter que leur propre maison brûle pour qu'ils réalisent enfin la détresse de la population et l'urgence de la situation? Se demande l'auteur. Il prône une gouvernance inspirée par le devoir et l'histoire pour éviter le pire. Haïti, écrit-il, a besoin de dirigeants engagés, non de jouisseurs indifférents à ses souffrances.
Et dans ce contexte, l'ONG Human Rights Watch appelle à son tour au déploiement d'une mission des Nations Unies en Haïti. Mais ça, c'est une question qui fait encore débat.
Oui, cette mission devrait garantir une réponse basée sur les droits humains afin de restaurer la sécurité, l'état de droit et la gouvernance démocratique dans le pays. Une nouvelle mission de l'ONU en bonne et due forme qui respecte des droits et s'appuie sur les efforts initiaux de l'ONU pourrait offrir aux Haïtiens et Haïtiennes une réelle opportunité de reconstruire leur vie dans l'espoir et la dignité. C'est ce qu'estime Human Rights Watch. Une mission de maintien de la paix à laquelle se sont encore opposées récemment la Russie et la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU.
Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press, on peut vous lire sur le site alterpress.org.
RFI, la radio del mundo.
On va revenir maintenant sur l'accord de libre-échange tant décrié entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Accord finalisé la semaine dernière lors d'une visite à Montevideo de la présidente de la Commission européenne, mais pas encore ratifié par les pays européens, loin de là, car plusieurs États comme la France y sont opposés. L'Italie aussi a quelques réserves à la peur pour ses agriculteurs, on en parlait avec notre correspondante hier. On a moins parlé, en revanche, des effets pour les pays du Mercosur. Et pour ce faire, nous sommes en ligne avec Olivier Antoine, expert en géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les pays sud-américains sont divisés aussi sur ce texte ?
Alors, oui et non. Vous parliez juste précédemment de ratification de la part des pays européens. Il faut aussi que les pays sud-américains ratifient. Et on sait que depuis 25 ans, les négociations ont capoté plusieurs fois, notamment du côté sud-américain. Donc, il y a des dissensions entre des secteurs, le secteur agraire qui compte exporter beaucoup, mais les secteurs industriels sud-américains sont plutôt tendus à l'idée d'ouvrir complètement leurs barrières.
Qu'est-ce qui coince et quels sont les arguments avancés par chacun des pays ?
Alors, vous avez par exemple en Argentine, pendant très longtemps, le péronisme en Argentine a énormément œuvré pour éviter l'ouverture de ses secteurs industriels aux importations européennes, donc en freinant beaucoup. Aujourd'hui, c'est le secteur industriel brésilien qui peut être plutôt réticent à l'idée de s'ouvrir complètement aux importations de l'Union européenne. D'ailleurs, les dernières négociations ont beaucoup travaillé dans ce sens-là, hein, essayer de préserver les secteurs industriels d'abord brésiliens, puis ensuite argentins. Et ensuite, vous allez avoir plutôt le Paraguay et l'Uruguay qui, eux, n'ont peu ou pas d'industrie, donc ils sont très, très friands à l'idée de pouvoir simplement exporter et importer des biens manufacturés qu'ils ne produisent pas par ailleurs.
D'ailleurs, le président du Paraguay a estimé hier lors d'une visite en France que cet accord bénéficierait surtout à l'Europe. Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, évidemment, si on le prend strictement d'un point de vue commercial, on produit plus de valeur ajoutée que n'en produit le Mercosur. Donc, d'un point de vue strictement commercial, il y a fort à parier que ce soit l'Union européenne qui soit la grande gagnante. Ensuite, concernant évidemment nos préoccupations côté européen, il y a beaucoup de craintes sur les secteurs agricoles et agroalimentaires. Mais in fine, je pense que pour les Sud-Américains, ils ont déjà l'habitude de voir notamment, ils n'ont pas d'accords commerciaux directs avec la Chine, mais ils savent déjà à quoi s'attendre avec des pays qui sont bien mieux dotés en matière de compétitivité industrielle et de services à voir arriver leurs produits sur le continent.
Alors, vous avez parlé des craintes concernant l'agriculture européenne. Cet accord, il crée un marché justement immense, hein, de plus de 700 millions de personnes. L'Europe espère exporter vers ces pays d'Amérique du Sud un certain nombre de produits, des voitures, du vin, des produits pharmaceutiques, des machines. Du côté du Mercosur, donc de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay et de la Bolivie, qu'est-ce qu'il y a à gagner ?
Alors, pour les secteurs, on va dire, de l'agro-industrie, plus d'exportations. Alors, il y a de longue date, on commerce beaucoup déjà avec les pays du Mercosur, hein. C'est déjà un grand fournisseur de matières premières de type soja, maïs, tourteaux de soja, tout ce qui va être alimentation pour les animaux. Donc, l'idée pour les pays sud-américains, notamment que ce soit le Brésil, qui est un grand exportateur de jus d'orange, de café, c'est de pouvoir avoir accès à des quotas supérieurs à ce qu'ils ont déjà, de pouvoir aussi avoir la possibilité de ne plus avoir de barrières tarifaires à l'entrée de l'Union européenne. Donc, concrètement aujourd'hui, on entend beaucoup une musique parmi les pays du Mercosur qui est « on va quand même gagner sur le secteur agroalimentaire, agro-industriel, mais finalement la victoire sera un peu amère parce que on ne pourra pas exporter autant que l'on le souhaite parce qu'aujourd'hui, l'accord tel qu'il est prévu ne va pas libéraliser les échanges du jour au lendemain. On estime qu'il y a à peu près entre 7 à 10 ans pour que tous les secteurs un petit peu stratégiques, viande bovine, les huiles, le biodiesel, soient libéralisés vraiment au compte-gouttes avec des quotas qui progressent progressivement d'année en année. Et avec des barrières tarifaires qui baissent, elles aussi, progressivement d'année en année. Donc, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus pour l'Amérique du Sud, d'autant qu'il dénonce une chose, c'est que la pression, les pays sud-américains dénoncent énormément la pression faite sur tout la partie environnementale de la production agricole sud-américaine.
Avec un certain nombre de questions qui concernent les normes notamment, on estime que si l'accord entrait en vigueur et à terme, 99 000 tonnes de bœuf pourraient arriver chaque année en Europe, 60 000 tonnes de riz, 45 000 tonnes de miel, par exemple. Il y aura d'autres produits que vous avez cités. Qu'est-ce que ça représente dans les économies des pays du Mercosur, ces exportations ?
Alors, c'est une goutte d'eau. Et c'est aussi une goutte d'eau pour nous. Ça, il faut quand même remettre dans le contexte le point qui cristallise énormément de colère, notamment en France, c'est les importations de viande bovine. 99 000 tonnes de viande bovine, l'Union européenne en produit 6,4 millions de tonnes par an. Donc, on est quand même assez loin de ce que l'on est capable de produire. Donc, c'est peu finalement. Par contre, c'est symbolique parce que l'Union européenne fait office d'un marché de très haute valeur ajoutée, haut de gamme. Donc, c'est un peu aussi une garantie. Si vous entrez sur le marché européen, pour les pays sud-américains, c'est un gage de vous êtes capable d'envoyer la meilleure qualité. Vous êtes dans les meilleurs standards de production possibles puisque l'Union européenne, avec quelques pays comme le Japon, la Corée du Sud, ont des standards particulièrement élevés quant aux certifications et aux réglementations de production. Donc pour eux, ça, c'est le point important. Voilà. Mais d'un point de vue quantitatif, c'est vraiment peu. Voilà. Ce qu'ils vont exporter vers l'Union européenne, ce n'est pas beaucoup.
Et d'ailleurs, un certain nombre de personnes ont exprimé des doutes, notamment Javier Milei, qui a parlé la semaine dernière pendant le sommet du Mercosur de modèles qui étaient dépassés. Il a des doutes, lui, même sur le Mercosur, lui-même, l'organisation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le président argentin peut peser pour faire capoter la mise en œuvre de cet accord, par exemple ?
Alors, je vous remercie de cette question, parce que vous avez en introduction parlé de ratification dans les pays européens, et je vous ai dit aussi ratification dans les pays sud-américains, et le grand point majuscule d'interrogation, c'est l'attitude de Javier Milei vis-à-vis du Mercosur. Il a clairement dénoncé le Mercosur, mais les pays du Mercosur, l'attitude de Javier Milei, elle n'est pas... Il n'y a rien de novateur dans son attitude parce que déjà des pays comme l'Uruguay ou le Paraguay précédemment ont dénoncé le fait que le Mercosur soit mal taillé, trop taillé pour le Brésil, impose le fait que quand vous devez signer un accord de libre-échange, c'est tout le bloc qui doit signer cet accord. Vous n'avez pas le droit de signer des accords directs de libre-échange. Et ça, des pays comme l'Uruguay, comme le Paraguay, notamment l'Uruguay, souhaitent énormément pouvoir signer en direct des accords. Jusqu'à présent, ces deux pays, Uruguay-Paraguay, étaient trop petits pour peser dans la discussion face au Brésil et à l'Argentine, qui sont vraiment les deux poids lourds. Là, on a vraiment un moment de bascule parce que Javier Milei, c'est le second pays du Mercosur et qu'il a la ferme volonté de vouloir, lui, signer des accords de libre-échange directement. Il est, outre l'Union européenne, très intéressé par signer un accord de libre-échange avec les États-Unis pour se rapprocher de Donald Trump, avec qui il partage évidemment des idées économiques et politiques depuis la réélection de Donald Trump. Donc, on fait face aujourd'hui réellement à une possibilité que cet accord finalement puisse ne pas être ratifié. Non pas par le partisan de Milei, mais par ses opposants, mais qu'aussi cet accord ne soit finalement que caduque, puisque si le Mercosur n'existe plus, si demain l'Argentine décide de se sortir du Mercosur, c'est la menace qu'a quand même proféré Javier Milei lors du dernier sommet, est-ce que cet accord qui a été signé aurait encore une validité ?
Merci beaucoup Olivier Antoine d'avoir été en ligne avec nous pour nous expliquer tout ça. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation. Merci.
Merci à vous.
RFI, la radio del mundo.
On va s'arrêter un moment en Bolivie, le dernier venu du Mercosur. La crise économique pèse de plus en plus lourd sur la population qui subit désormais, depuis une semaine environ, une pénurie d'huile dans les grandes villes. Conséquence, les prix explosent et le gouvernement suspend toute exportation d'huile pour 3 mois. Le temps, Nils Sabin, que la situation revienne à la normale.
Les Boliviens vont-ils passer Noël sans huile ? C'est la grande question que se posent de nombreux consommateurs depuis le début de semaine dernière. La ville de La Paz subit de plein fouet cette pénurie. C'est ce que nous explique Hermindo, rencontré dans le quartier commerçant de Max Paredes.
C'est impossible d'en trouver. Avant, une bouteille d'un litre coûtait autour de 10 pesos. Maintenant, c'est 18, presque 20. C'est trop.
La situation de quoi surprendre, car la Bolivie est un important producteur d'huile. Rien qu'en 2023, le pays a exporté pour près de 600 millions de dollars de ce produit. Le gouvernement accuse les producteurs et les intermédiaires de spéculer sur les prix, de réserver leurs produits à l'exportation et donc de délaisser le marché interne. Des accusations nées en bloc. En tout cas, une chose est sûre, du côté des vendeurs et des consommateurs de La Paz, l'huile n'arrive pas.
Il n'y a de l'huile nulle part. Ils ont annoncé que les marchés allaient être approvisionnés. Mais chez ma vendeuse habituelle, il n'y a pas d'huile.
Cette situation inquiète Liliane pour les prochaines semaines.
Comme vendeuse, j'ai commandé 5 caisses d'huile pour les fêtes. À cette période de l'année, nous commandons toujours plus. Mais les distributeurs ne nous en ont livré qu'une ou deux.
D'autres pénuries, en particulier de riz, ne sont pas à exclure dans les prochaines semaines. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Un mot encore de l'actualité du continent, de l'état de santé du président brésilien stable. Lula ne présente aucune séquelle après son opération en urgence pour une hémorragie intracrânienne. C'est son médecin qui l'annonce. Cette hémorragie avait été provoquée par une chute il y a quelques semaines.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique, où a eu lieu une journée d'accueil pour les quelques 500 jeunes étrangers inscrits cette année à l'Université des Antilles.
Ils et elles viennent du Togo, du Bénin ou encore d'Allemagne. Et le campus universitaire de Schœlcher avait mis hier les petits plats dans les grands pour leur souhaiter la bienvenue. Reportage Ronan Bonnec.
Petit drapeau, ambiance musicale et collation pour accueillir tous les étudiants internationaux. C'est la première fois que cet accueil en grande pompe a lieu sur le campus. Pascal Safache, vice-président du pôle universitaire de la Martinique.
Dans université, il y a universalité. Et donc l'idée, c'est de ne pas rester entre nous. Hein. L'entre-soi n'est pas très enrichissant et c'est justement la diversité qui apporte la richesse. Et donc on est véritablement heureux d'avoir sur le pôle un peu plus de 700 étudiants, même si on en a à peu près un peu plus de 500 qui sont en présentiel et les autres qui étudient en distanciel.
Le plus gros effectif d'étudiants internationaux provient d'Afrique de l'Ouest, à l'instar de Carole, béninoise, en licence d'économie et de gestion.
Je suis venue faire mes études ici, compte tenu du cadre, parce qu'aussi ne sont pas racistes. Il y a quand même la culture africaine qu'on retrouve ici, donc on se sent plutôt à l'aise.
Bénin, Haïti, Togo ou encore l'Allemagne fournissent les plus gros effectifs parmi la quarantaine de nationalités présentes sur le campus. Les étudiants y restent en moyenne 3 ans et sont majoritairement inscrits en UFR d'économie et de gestion.
Un tout autre sujet, la dernière nouveauté mise en place par la nouvelle compagnie Air Antilles, la mise en place à compter du 6 janvier d'un vol matinal entre Saint-Martin et les Antilles, Martinique et Guadeloupe, comme l'explique le directeur général d'Air Antilles, Samuel Braconnier, au micro d'Hervé Pédurand.
L'ouverture d'un nouvel horaire qui était très attendu par les Saint-Martinois, donc à 7h30 le matin de Saint-Martin vers Pointe-à-Pitre. Ce vol sera opéré avec un Twin Otter de 19 sièges qui permettra aux Saint-Martinois, c'était un engagement de la compagnie, de passer une journée à destination en Guadeloupe ou en Martinique, une journée de travail. C'est un horaire qui était fortement attendu par les professionnels. L'ouverture de cet horaire a été rendue possible par le retour en flotte de l'ensemble de nos appareils, puisque l'ensemble de nos ATR est attendu de retour en opération commerciale d'ici la fin décembre. Et puis un Twin Otter supplémentaire qui, lui, rentre en opération commerciale à partir de mi-décembre. L'enjeu était de pouvoir offrir à chacun, sur chacune de nos escales, sur chacune de nos bases opérationnelles, un départ le matin et un retour le soir pour permettre à nos voyageurs de passer une journée pleine et entière à destination.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était réalisée par Vincent Biteau. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes de vive voix avec Nathalie Amar et son invitée, l'autrice Lucie Taïeb.
Ce mardi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrand.
Décarboner l'électricité, oui, mais comment garantir aux habitants une transition équitable ? En Écosse, la région pétrolière d'Aberdeen craint pour ses emplois et son économie. La production de pétrole en mer du Nord est la plus faible depuis les années 70 et l'accélération de l'éolien se fait attendre.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.